Vous êtes bien sur le 94 FM, il est midi 15 et vous écoutez 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a
les villages.
Qu'on n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bonjour à vous et bienvenue dans 3 en 1, votre rendez-vous d'information locale sur Canal B. 3 en 1, c'est une émission diffusée 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi de midi 15 à midi 45 et en rediffusion les mardis, jeudi et samedi le matin à 8h15. Vous y retrouverez à chaque fois une info du jour, une interview et une chronique ou un reportage de la rédaction de Canal B. Et aujourd'hui, au sommaire de cette émission, nous parlerons de la baisse de subventions brutale qui a frappé début septembre le centre de soutien LGBTI+ de Rennes. Nous recevons en plateau Emma Guiguin, présidente de l'association Iskis. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi le passage à la retraite qui peut devenir une source d'inspiration artistique pour certaines personnes. Canal B est parti en reportage à la maison de quartier de la Touche qui propose actuellement une exposition sur les joies et déboires des retraités. Mais pour commencer, place à notre info du jour. L'info du jour ce mercredi 22 octobre, c'est plutôt un rappel. Depuis le 15 octobre, la consultation publique au sujet du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Vilaine est ouverte. Ce schéma d'aménagement que l'on nomme aussi le SAGE, c'est en résumé le document qui régule et qui planifie les usages de l'eau de la Vilaine et sa gestion de son bassin versant à son embouchure, c'est-à-dire tout le long de son cours d'eau. Qui peut utiliser l'eau de la Vilaine, dans quel but et surtout dans quelles conditions? Voilà le type de questions auxquelles est censé répondre le SAGE. En accord avec la stratégie biodiversité et eau de Rennes Métropole, le but de ce plan est que la ressource en eau de la Vilaine soit gérée de manière équilibrée et durable, plutôt logique quand on pense au fait que l'eau est un bien commun. À ce jour, une nouvelle version de ce document de planification a été élaborée par la commission locale de l'eau, qui concerne le bassin versant de la Vilaine. Il prend en compte de nouveaux facteurs comme les risques naturels liés aux inondations. Rennes Métropole a déjà rendu un avis favorable à cette proposition, cependant avec une réserve. Et la dernière étape de l'élaboration de ce document, c'est la consultation publique. Et c'est là que vous entrez en jeu. Concrètement, cela signifie que jusqu'au 14 novembre 2025, vous pouvez consulter la proposition du nouveau SAGE de la Vilaine et surtout donner votre avis. Après l'étude des contributions et des propositions du public, une version finale de ce document de planification sera proposée aux préfets des départements concernés par le sujet et ils et elles pourront l'approuver ou non. Vous retrouverez toutes les infos à ce sujet à l'adresse sage-vilaine-revision.com. Et oui, je vous l'accorde, le sujet peut paraître un peu technique, voire même ennuyeux, mais au final, il s'agit de donner votre avis sur une question simple, mais pourtant ô combien importante. Qui a le droit d'utiliser l'eau qui coule à nos pieds et pourquoi ?
محلى كلمة حرية حي الثوار العربية
Et alors que vous entendez un morceau d'Acide Arabe dans 3 en 1 sur Canal B. Commençons avec notre sujet d'interview du jour. C'est une nouvelle qui n'a pas manqué d'heurter les acteurs du monde associatif ainsi que la sphère queer rennaise. Le 7 octobre dernier, nous apprenions dans un communiqué de presse que le centre de soutien LGBTI+, ISKIS, basé rue Saint-Martin, perdait 40 000 euros de subventions sur les 50 000 prévues pour l'année 2025. Issu d'un fonds interministériel dédié à la lutte contre les discriminations anti-LGBT et d'autres discriminations, ces subventions avaient pourtant été budgétées sur 3 ans, de 2024 à 2026. Face à cette baisse soudaine et inexpliquée, le centre ISKIS est aujourd'hui dans l'incapacité de rémunérer ses 2 seuls salariés. Dans les jours qui ont suivi cette annonce, l'association a donc déposé un recours gracieux auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour tenter de récupérer ses subventions et sauver ses 2 emplois. Par qui a été prise cette décision? Quelle solution reste-t-il aujourd'hui au centre ISKIS? Et qu'est-ce que cela signifie pour le soutien aux personnes LGBTI+, à Rennes et aux alentours? Nous en parlons aujourd'hui avec Emma Guiguin, présidente du centre ISKIS, au micro de Julie. Emma Guiguin, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, pour commencer, nous venons d'évoquer la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que la préfecture a à faire avec votre subvention et pourquoi est-elle en cause dans cette situation?
Alors oui, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, il y a pas mal de subventions qui passent par la préfecture, on s'en rend pas forcément compte. Les préfectures sont le relais en fait du gouvernement sur les territoires. Et comme cette mission interministérielle qu'est la DILCRA, ça fait partie du gouvernement, en fait, après... les dossiers de subvention passent par les préfectures qui les relaient au national. Et il y a un délégué d'ILCRA d'ailleurs qui est dans chaque préfecture.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail ce qu'est le rôle de la préfecture dans l'attribution de ces subventions?
Et bien justement, c'est là que ça devient un peu mystérieux. Selon les préfectures, j'ai l'impression que certaines se contentent d'un rôle consultatif, c'est-à-dire qu'elles donnent leur avis. Et du coup, la DILCRA et le ministère choisissent d'en tenir compte ou pas. Mais apparemment, dans notre cas, la préfecture a un avis vraiment décisionnel.
Et comment est-ce que vous avez appris la décision de cette baisse de subvention?
Nous, on a déposé une demande de subvention en décembre 2024. La plupart des réponses ont commencé à arriver pour les autres territoires, parce que du coup, on fait partie d'une fédération en fait, de centres LGBTI+. Forcément, on communique entre nous sur qui a les subventions, qui les a pas, sur quel montant. Du coup, on a pu voir que les réponses commençaient à arriver à partir de février. Nous, c'est à partir d'avril qu'on a commencé à se poser des questions. Bon, c'est bizarre qu'on n'ait vraiment aucun retour sur où ça en est. On a déjà dû demander le dossier de subvention directement à la DILCRA, alors que normalement c'est la préfecture qui est censée les transmettre. Ça nous avait un peu surpris la façon dont ça s'était passé, donc on était quand même attentifs sur la situation. De avril à juillet, on a relancé sans réponse, que ce soit de la DILCRA ou de la préfecture. Tout ça pour avoir en juillet, pas mal de mois après notre demande de subvention, cette réponse que c'était 10 000 euros, alors qu'on avait demandé 53 000 pour pouvoir augmenter un peu les salaires, en fait, pour tenir compte de l'inflation.
Donc, si en 2024, votre quête de subvention reçoit une réponse positive, est-ce que vous avez une explication de pourquoi ce n'est pas le cas cette année?
Alors non, pas du tout, à part que ce serait pour des raisons budgétaires, qui apparemment n'existent pas sur les autres territoires, puisque les associations LGBTI+, du coup, d'Angers et de Nantes, ont eu des subventions qui s'apparentent, en fait, à ce qu'on a eu en 2024, donc aux alentours de 50 000 euros. Pourquoi est-ce que ces restrictions existent pour l'Ille-et-Vilaine, pas pour d'autres départements? On ne sait pas.
Donc, je le rappelle pour les auditeuristes, mais suite à la décision de la préfecture, vous décidez d'envoyer un recours gracieux qui permet d'obtenir une réexamination amiable et l'administration a donc 2 mois pour vous répondre. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez une réponse?
Non, on n'a pas eu plus de contacts à la préfecture. D'autres personnes, du coup, qu'on a pu alerter sur la situation ont aussi écrit à la préfecture. Par exemple, le département leur a écrit, je sais que la mairie leur a écrit aussi, certains députés ont pu leur écrire aussi. Et du coup, un des députés, qui s'appelle Michael Boulou, qui est un député du département, nous a dit que, pareil, il nous a transmis la réponse de la préfecture. Et pareil, c'est une réponse qui tient sur quelques lignes, sur « on essaye de soutenir, mais il n'y a plus d'argent ».
Donc, d'après la préfecture, il n'y a plus d'argent pour soutenir le centre. Mais qu'en est-il des autres associations qui bénéficient du fonds d'ILCRA? Est-ce que vous avez eu des échos?
Alors, dans le milieu LGBTI+, non, pas particulièrement. Après, c'est un milieu où les associations demandent peu de subventions en général. Alors, le fonds sur la lutte contre les discriminations, c'est assez difficile de savoir comment est-ce qu'il est utilisé. Nous, on a demandé, en fait, les documents de budget, en fait, parce que c'est des documents publics, donc ils devraient pouvoir être accessibles sur demande. Donc, on a demandé ces documents à la préfecture pour savoir comment est-ce que le fonds de lutte contre les discriminations a été utilisé. Et ils n'ont pas transmis ces documents, on leur avait demandé dans le cadre du recours gracieux.
D'accord.
Donc c'est pour ça aussi que là on a déposé un recours au tribunal administratif, c'est pour avoir en fait ces documents, pour savoir comment exactement les subventions étaient utilisées, parce que ça pose des soucis au niveau de tout ce qui est transparence des fonds publics en fait.
À ce jour donc, vous n'avez pas eu de réponse de la part des autorités sur l'utilisation du fonds d'ILCRA et les autres associations en bénéficiant. Si on se concentre maintenant sur les conséquences de cette baisse de subvention sur vos activités, qu'est-ce que le centre ISKIS ne va plus pouvoir proposer parmi les missions qu'il mène habituellement ?
Alors c'est moins un souci de plus pouvoir proposer, c'est plus de moins pouvoir proposer. Ces deux emplois, qui sont un emploi de coordinatrice administrative et de coordinatrice de l'accueil du public. Elles servent à structurer en fait nos activités. Par exemple, on répond beaucoup plus vite aux mails, on a quelqu'un qui est là en journée pour répondre au téléphone, ce qui n'est pas le cas quand on n'a que des bénévoles. Donc en fait, on est beaucoup plus efficace. Et c'est des choses qu'on faisait en tant que bénévole, mais qui prennent énormément de temps, donc nous on ne pouvait pas se concentrer sur d'autres projets par exemple. D'avoir quelqu'un en soutien administratif, ça nous a par exemple permis de lancer un festival de cinéma et de culture queer sur Rennes qui a énormément de succès et qu'on reconduit cette année justement. Donc c'est des choses qui sont extrêmement précieuses. Et pour ce qui est de la coordination de l'accueil du public, ça permet de pouvoir aider beaucoup plus de personnes en fait, parce qu'on est très sollicité. On reçoit en moyenne une dizaine de mails par jour. Ça peut être des personnes notamment qui ont besoin d'aide des fois urgente, pour des démarches administratives, pour des démarches judiciaires en cas de discrimination ou d'agression, des gens qui ont des besoins d'écoute, qui sont dans des situations très compliquées, des personnes qui sont très précaires. Avoir quelqu'un qui est là pendant la semaine, ça permet de pouvoir voir ces personnes beaucoup plus rapidement, de pouvoir retransmettre les demandes à l'équipe accueil-écoute quand il y a besoin. Du coup, c'est vraiment très très précieux et on ne pourra pas aider le même volume de personnes et aussi efficacement sans ce poste.
Nous sommes avec Emma Guiguin, présidente d'ISKIS, centre LGBTQI de Rennes sur Canal B. Mais tout de suite, c'est une pause musicale avec le groupe Soyouz et leur titre Mirouz. C'était le groupe biélorusse Soyouz avec leur titre Mirou sur Canal B. On retrouve Emma Guiguin dans l'émission 3 en 1, interviewée suite à la baisse des subventions qu'a subi le centre ISKIS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'accompagnement que vous proposez s'articule dans la métropole ?
Comme on est pas mal connu en fait sur Rennes, parce qu'on a vraiment fait tout un travail de réseautage, bah du coup il y a plein de professionnels du médico-social qui nous connaissent et qui en fait nous redirigent des gens qui se sentent en détresse, et notamment beaucoup de personnes exilées. On est une association qui se veut être inclusive, donc du coup, peu importe les problèmes auxquels les personnes font face, nous on essaye de les aider dans la mesure de nos moyens. On n'est pas des professionnels non plus de l'accompagnement social. Évidemment, on fermera jamais la porte à un public, même si c'est des publics qui sont par exemple très stigmatisés et discriminés même par l'État, parce que en tant que personne LGBTI+, on sait ce que c'est d'être discriminé et stigmatisé par l'État. Du coup, cette aide aux personnes LGBTI+ exilées, elle s'arrêtera pas quoi qu'il arrive.
Avec cet exemple, on voit que vous travaillez sur le plan social et sanitaire. Est-ce que d'après vous, on peut parler ici d'enjeux de santé publique et de vivre ensemble ?
Ah oui, complètement, ouais. Au niveau de la santé publique, ça, c'est vraiment très très visible. Enfin, nous, par exemple, dans nos permanences, on a une soixantaine, voire 70 personnes par semaine qui viennent. Et on met en place, notamment avec l'association Aide, des dépistages rapides et gratuits. Voilà, on fait aussi de l'information en santé, donc... quand on reçoit des personnes et qu'elles ont des questions de santé, on essaie d'y répondre au mieux. Et on fait aussi partie du coup de réseaux de santé. Ça, c'est des réunions auxquelles on participe avec des professionnels de santé pour mettre en place des plans en fait en santé publique sur ces questions de santé sexuelle. On parle beaucoup en ce moment de l'AME, l'aide médicale aux personnes étrangères, qui est menacée de suppression tous les 15 lundis. Ce serait un vrai problème en santé publique si l'AME venait à disparaître. Le fait d'avoir des plans de santé publique qui incluent en fait ces personnes, c'est très très important. C'est potentiellement des personnes qui vont être malades, peut-être transmettre des maladies, ou qui vont du coup se retrouver à l'hôpital alors qu'elles auraient pu être soignées avant, et du coup forcément ça va coûter plus cher à l'État, alors que disent que la suppression de l'AME ferait des économies, mais c'est pas du tout vrai. Du coup il y a ça, il y a aussi, on suit pas mal de personnes transgenres qui ont des besoins en santé, notamment sur les questions de transition, parce que c'est pas du tout réglementée. En général, ça joue contre elle quand il y a des tentatives, parce que c'est pas fait avec les personnes concernées.
On comprend donc que l'accompagnement que vous offrez, il est majeur dans le secteur de Rennes. Et donc, pour vous, pourquoi est-ce qu'il est encore important de sensibiliser aux droits LGBTQI ?
La lutte contre les discriminations, aujourd'hui, l'État, il en parle très peu. C'est complètement passé à la trappe, en fait. C'est un des sujets sur lesquels il n'y a pas vraiment d'organisation pour lutter contre. Et pourtant, ces discriminations, non seulement elles existent, mais en plus, elles augmentent en fait en ce moment. Il y a une montée de l'extrême droite qui est de plus en plus importante d'année en année. On passe notre temps à le répéter, donc on a l'impression que c'est connu. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui passent à côté au final, ou qui le ressentent peut-être pas encore dans leur quotidien. Mais nous, on le ressent dans notre quotidien. Par exemple, le centre LGBTI+ de Rennes a été dégradé deux fois au printemps là, cette année. Donc on sent cette montée de l'extrême droite et de l'intolérance. Et du coup, on voit aussi la montée des agressions. On voit des personnes qui nous arrivent qui se sont fait agresser. Sur la marche des fiertés, il y a aussi des agressions tous les ans. Et du coup, nous, on voit bien que ces discriminations, elles augmentent. Et de voir que non seulement l'État nous accompagne pas là-dessus, mais en plus ne nous soutient même plus financièrement, c'est vraiment problématique, quoi.
Donc, par rapport aux problématiques que vous venez d'évoquer, quelle est la suite pour le centre Esquisse à court terme ?
Du coup, là, en ce moment, on se bat pour sauver les emplois. On va continuer après la fin du recours gracieux, du coup. En fin septembre, on dépose un recours au tribunal administratif. Rien que déjà pour savoir pourquoi est-ce que ces subventions sont retirées, parce que nous, on n'est pas satisfaits de la réponse de la préfecture là-dessus. Comment un plan qui était financé à plusieurs millions d'euros se retrouve soi-disant à sec, mais seulement sur l'Ille-et-Vilaine, pour lesquelles les subventions ont été drastiquement diminuées. En deux ans, c'est un peu étrange. Donc du coup, on veut les vraies raisons. Et aussi, dans l'entretemps, on cherche d'autres subventions ailleurs, que ce soit auprès d'autres institutions. Les subventions privées, on y pense, mais c'est pas encore décidé, parce que c'est quelque chose qui peut poser des soucis éthiques. Il faut savoir à qui on demande, pourquoi, bien examiner chaque chose pour voir si ça rentre dans nos valeurs. C'est des choses auxquelles on réfléchit. On veut quand même rappeler à l'État que la lutte contre les discriminations, c'est sa prérogative, et que dans ce sens-là, elle est censée s'en emparer et financer les structures qui la portent.
Et est-ce que vous avez décidé de candidater à nouveau pour le fonds d'ILCRA l'année prochaine ?
Ah oui, forcément, parce qu'on estime que nos activités, elles rentrent tout à fait dans ce que ce fonds est censé financer. et qu'on ne comprendrait pas que ce ne soit pas le cas. Donc on va continuer. Je ne sais pas si on a grand espoir d'obtenir grand-chose l'an prochain, voire d'obtenir quoi que ce soit. Mais on va quand même candidater pour le principe, pour la forme, et puis pour continuer à défendre nos droits.
Pour finir, j'aurais une dernière question. Comment est-ce que les personnes de votre communauté, les alliés, les habitants de la ville, pourraient soutenir le centre Esquisse aujourd'hui ?
Eh ben, nous, on a toujours besoin de soutien, quelle que soit la situation, hein, mais on a besoin de personnes qui adhèrent, on a besoin de personnes qui participent, qui font du bénévolat, et on a besoin aussi de soutien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou auprès des institutions. C'est tout à fait possible pour n'importe quel citoyen d'écrire à la préfecture, par exemple, pour poser des questions. Je vous encourage à le faire si vous avez quelques minutes. Vous pouvez aussi forcément exprimer votre soutien, que ce soit en donnant de votre temps ou de votre argent, si vous le pouvez, à l'association. Nous, quel que soit le soutien qu'on reçoit, on est toujours très heureux parce que la lutte contre les discriminations, on a toujours un peu l'impression de lutter seul quand ça nous concerne. Et du coup, de voir que quand on fait des sondages, que je ne sais plus, 70% des Français sont favorables aux droits égaux pour les personnes LGBTI+, c'est bien. Mais on aimerait bien le voir aussi concrètement dans la vraie vie, quoi.
Eh bien, merci beaucoup Emma Guiguin d'être venue sur le plateau de Canal B. Je le rappelle, vous êtes la présidente du centre Esquisse qui accueille et accompagne les personnes LGBTQI à Rennes et aux alentours.
Merci Julie et merci à Emma Guiguin d'avoir été avec nous sur le plateau de Canal B. On en profite pour rappeler que la situation du centre Esquisse n'est pas si éloignée du reste de celle des associations françaises, puisque malheureusement, le projet de loi de finances 2026, pour l'instant déposé par le gouvernement, prévoit une baisse de 26% des fonds alloués aux associations partout en France. On parlait à l'instant d'associations, et bien ils et elles sont nombreuses justement à être bénévoles dans des associations. On va parler maintenant des retraités ou des presque retraités, tout de suite sur Canal B, mais sous un angle un peu différent. Comment enchanter son passage de la vie active à la retraite ? C'est une des questions qu'un collectif à la moyenne d'âge plus élevé que la moyenne propose de vous faire découvrir en ce moment même à Rennes. D'une vie à l'autre, c'est le titre plutôt poétique de leur exposition que vous pouvez retrouver à la maison de quartier de La Touche. Manon, de la rédaction de Canal B, est allée à la rencontre de deux membres de ce collectif.
Sur l'affiche de l'exposition, accrochée à l'entrée de la maison de quartier de La Touche, un détail saute aux yeux. Sous le titre « D'une vie à l'autre », le mot « retraité » est inscrit, mais barré. Il est remplacé par l'expression « jeunes actifs libérés ». Edith Tertrais, membre du collectif organisateur de l'exposition, nous explique ce choix.
L'un des protagonistes préfère parler d'actifs libérés plutôt que de retraités. Donc on joue sur ce terme.
D'une vie à l'autre, c'est une exposition photographique gratuite qui a lieu à la maison de quartier de La Touche, espace d'accueil et de loisirs éducatifs. L'exposition est composée d'une série de 12 photographies, chacune de la taille d'un poster A3, installée dans une petite pièce lumineuse ouverte sur l'entrée de la maison de quartier. Une des raisons qui a poussé le collectif à organiser cette initiative, c'est l'importance, pour eux, de s'intéresser à cette transition de travailleurs-travailleuses à actifs libérés.
Notre idée, c'est toujours de savoir que faire de notre vie de retraité, comment on la vit, comment on la partage, etc. Alors, le message principal, c'est en fait de se dire que quand on arrive à la retraite, on peut être démuni.
En France, 7 actifs sur 10 craignent l'arrivée de leur retraite, d'après une étude de 2023 de Malakoff Médéric, organisme de protection sociale français. En déambulant le long des photographies, Edith précise que cette exposition a aussi de spécial qu'elle invite les presque retraités à bien préparer leur retraite.
Il est nécessaire de préparer sa retraite parce qu'une retraite, ça se construit et on a beaucoup de questionnements auxquels on peut être confronté.
Préparer sa retraite, c'est aussi accepter un bouleversement complet de son quotidien. Edith décrit par quelles émotions peuvent passer les retraités et les questionnements qu'ils et elles peuvent traverser.
Et l'exposition, elle est joyeuse hein, parce que c'est le temps libéré, mais qu'en fait-on ? On est un petit peu pris de court. Après, il y a les activités, les rencontres. Et puis, on sait très bien que l'on va vers une fin de vie.
Ces questionnements et ces émotions, c'est d'ailleurs un peu le point de départ de cette exposition. Initialement, le collectif D'une vie à l'autre s'est constitué autour d'ateliers organisés au champ libre sur le thème « Dessine-moi un, une retraitée ». C'est ce collectif qui a donné son nom à l'exposition actuellement en cours à la maison de quartier de La Touche. Edith Tertrais analyse les activités proposées lors des ateliers au champ libre.
On échange des bons plans, où parfois les personnes peuvent aussi, quand elles vont pas bien, exprimer ce qu'elles ressentent. L'idée, c'est justement de se donner du bon temps pour ce temps de retraite.
Edith répète plusieurs fois que l'exposition se veut joyeuse, bien que les thèmes abordés soient divers et variés, passant de la joie de l'arrivée à la retraite à la peur de la mort. Avec des podcasts pour compléter les photographies, l'exposition se veut interactive et accessible pour tout âge, afin de se plonger dans les questionnements d'un ou d'une jeune retraitée, une étape qui nous touche tous et toutes.
Une des personnes qui témoigne indique que ce matin-là, elle s'est levée comme tous les autres jours, mais elle n'a pas franchi la porte de chez elle. Elle n'avait plus le même cadre.
Jean-François Yon, l'un des membres du collectif D'une vie à l'autre, rappelle l'importance de parler de la retraite autrement. Pour lui, il faut faire émerger des idées nouvelles liées à une réalité nouvelle. Aujourd'hui, on vit plus longtemps. D'après l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, en 2024, l'espérance de vie des femmes à la naissance était de 85,6 ans contre 80 ans pour les hommes. Alors, vivre 20 ans ou plus à la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence. Et c'est exactement ce que veut montrer cette exposition, une retraite comme une renaissance.
Cette exposition, qui se terminera lundi 3 novembre, se déplacera ensuite du côté de la maison de quartier Sainte-Thérèse, puis à Bréquigny. N'hésitez pas à aller la consulter, puis pourquoi pas discuter avec ses protagonistes et puis les personnes qui l'ont organisée. Vous êtes toujours sur Canal B, merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous sur le plateau de 3 en 1. Merci à Emma Guiguin, présidente de l'association Iskis, et également aux membres du collectif D'une vie à l'autre. Aujourd'hui, l'émission vous était présentée par Nina, à l'interview c'était Julie et au reportage Manon. Vous retrouverez 3 en 1 en replay sur le site de Canal B, canalb.fr, et en rediffusion dès demain matin 8h15 sur le 94 FM et en DAB+. Et pour ma part, eh bien, je vous dis bon appétit ou bon après-midi et puis à vendredi.